sur les nanoparticules, je voulais savoir ce que vous pensiez des cosmétiques, en particulier des crèmes solaires. Ça m'intéresse en particulier parce que je suis dermatologue, parce qu'il y a de plus en plus de nanoparticules, semble-t-il, en particulier dans les crèmes solaires. Et par ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment des nanoparticules, mais je voulais savoir si vous preniez par exemple du café dans les capsules d'espresso, si vous pensez que ça a un impact sur la myriade, par exemple, entre autres.
Oui, alors, en ce qui concerne les crèmes de bronzage, il s'agit bien de nanoparticules de dioxyde de titane, celles-là même qui sont utilisées pour les peintures. Il y a maintenant de la littérature qui présentement montre la pénétration provocutanée sur des animaux tels que les lombricidés ou même sur des cellules de kératine, enfin sur des kératines aussi en culture. Donc les nanoparticules peuvent bien pénétrer. Bon, nous sommes quand même protégés, nous, pour notre épiderme. Mais une partie va pénétrer. Alors, bien entendu, sur l'être humain, on ne peut pas expérimenter, mais sur des animaux, par exemple sur des rats, dont on a recul, que l'on a tondu, on note effectivement dans la peau une pénétration des nanoparticules. Et donc, les nanoparticules, une fois qu'elles sont dans les cellules, comme la totalité des polluants, donc ça c'est une vérité que je vais assainir, mais. Qui est vrai, quel que soit le polluant, qu'il soit métallique, nanoparticulaire, ou chimique, organique, ou même des radiations ionisantes, elles vont, tous ces polluants, qu'ils soient chimiques ou physiques, vont induire un stress oxydant, c'est-à-dire la génération de radicaux libres, qui elle-même va pouvoir entraîner des modifications de l'ADN, une hyperoxydation des lipides, donc une fragilisation de toutes les membranes cellulaires. Ça a été démontré. Ça a été démontré pour le dioxyde de titane après haute dose. D'accord ? Après haute dose. Donc, il reste à faire le travail à des concentrations pertinentes environnementales. C'est-à-dire aux concentrations qui sont celles-là même contenues dans les crèmes lorsque une femme s'en badigeonne l'été. D'accord ? Mais indéniablement, il y aura des conséquences. Votre seconde question va porter sur l'aluminium. L'aluminium, c'est un composé qui peut être toxique, un neurotoxique, à haute dose. Et notamment, ce que l'on sait de la toxicologie neurotoxique de l'aluminium, c'est qu'il prime l'agrégation de la protéine Tau, donc une protéine qui est essentielle dans la fonction de l'axone neuronal. D'accord ? Mais c'est à très haute dose. Et donc, dans une capsule Nespresso, d'accord, la percolation dure quelques secondes seulement, avec une eau qui est autour de 90 degrés. Donc, ça a été quantifié. Et les quantités d'aluminium que l'on retrouve dans le café en concentration sont 10 fois inférieures aux concentrations d'aluminium que l'on trouve dans le thé vert. En fait, l'aliment, plutôt la boisson la plus riche en aluminium, susceptible de pénétrer notre organisme via l'alimentation, c'est le thé. Hein. C'est le thé vert. C'est de loin le contaminant majeur des humains en termes d'aluminium. Alors,
vous en tirez quoi comme conclusion? J'essaie de voir du
thé. Non, j'en tire comme conclusion que. Il faut savoir les en garder, d'accord, et que donc, boire les capsules Nespresso ne représente pas de danger. Le thé, alors le thé, les études épidémiologiques montrent qu'elles contreviennent les maladies athéromateuses, cardiovasculaires, à cause de leur richesse en polyphénol. Bien. Ce qui n'a pas été observé encore, c'est la toxicologie, ou plutôt étudier la toxicologie de la consommation de thé via l'aluminium.
Nous sommes sur le professeur Respiro. Je veux revenir, merci d'avoir remercié nos trois intervenants là, qui montrent bien que les pathologies environnementales ont un sens et chacun dans leur domaine. Et je voudrais reprendre trois petits points. Un, avec la présentation de
de Régine Lalbonne sur la notion d'épidémiologie. En fait, je crois que ce qu'il faut bien comprendre avec l'épidémiologie, c'est que l'épidémiologie n'a jamais été faite pour mettre en exergue une relation entre un xénobiotique et la santé. Ça a été fait au départ pour mettre une relation directe entre un agent causal, une bactérie ou un virus, et une pathologie bien déterminée. Hein, donc une relation binaire, un agent causal, une pathologie, ça s'avait très bien, ben c'est à la suite de la médecine pasteurienne, et c'est très bien et c'est très efficace. Or, pour les xénobiotiques, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que d'abord, ce sont des produits, vous l'avez vu, qui ont des effets différents en fonction des doses et en fonction du moment où on les absorbe, et qu'en plus, en mélange, ils donnent des effets et des troubles pathologiques complètement divers et variés. Donc on ne peut jamais avoir une relation directe entre un ou plusieurs agents causaux et une ou plusieurs pathologies retrouvées. C'est pour ça qu'il y a eu très longtemps un déni au niveau des pathologies environnementales. Donc ça, c'est vraiment, il faut bien avoir ça en tête. Alors qu'est-ce que serait une épidémiologie nouvelle pour mettre en évidence des facteurs? Eh bien, ce serait, il faudrait croiser, à mon sens, plusieurs facteurs, c'est-à-dire qu'il faudrait faire de réelles études in vitro, déjà pour voir ce que ça donne in vitro, après ça sur des animaux vie entière et sur la production, voire en transgénérationnel. Après, corroborer ça avec des animaux d'élevage, avec la faune sauvage, et puis après avec ce qu'on trouve sur l'humain. Et là, on pourrait avoir des faisceaux de preuves, mais pas une preuve directe et intangible, d'une action potentielle de tel ou tel xénobiotique sur la santé. Voilà un petit peu comment l'évolution de l'épidémiologie devrait avancer au niveau du 21e siècle. Sinon, on restera toujours dans la recherche d'une relation binaire entre un agent et une pathologie bien déterminée, et on va tourner en rond pendant des siècles. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, sur la présentation de Jean-Paul, qui a eu la gentillesse de venir ici nous présenter ça, là, vous avez vu qu'il a très justement pris le stockage de ces nanoparticules sur les cerveaux. Et vous ferez remarquer qu'il y a 2 jours, il y a eu une annonce scientifique mondiale sur l'augmentation des maladies d'Alzheimer, et qui, en l'espace de 3 ans, depuis 2010, a augmenté de 18% au monde. Et la réponse des journalistes scientifiques, ça a été de dire oui, mais c'est parce qu'on a un vieillissement de la population. Bien, je vous en prie, il faut qu'on essaie de réfléchir. La population n'a pas vieilli en l'espace de 3 ans. Par contre, on commence à se rendre compte que l'effet de ces xénobiotiques au niveau du cerveau, et en particulier tous ceux qui sont lipophiles, qui se stockent dans notre mode de beurre qui est notre cerveau, eh bien, entraîne des perturbations dans les communications entre les cellules, et on peut très bien imaginer, et là c'est toute une recherche à faire pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, et puis la dernière intervention qui montre vraiment qu'il faut avoir une vision écosystémique hein, du vivant et aussi des pathologies, parce que quand on touche à un élément d'un écosystème, eh bien on a des répercussions dans tous les domaines, même économiques, sociaux, etc. etc. Donc vraiment ces trois présentations montrent bien chacune dans leur comment dirais-je, différence et dans leur variété, comment il faut qu'on appréhende les pathologies environnementales. Je vous remercie.
Merci. Professeur Lalbonne, un mot.
Oui, juste un mot pour...
On va laisser M. Lalbonne répondre.
Oui, oui, parce que le docteur Chaudreau, je suis tout à fait d'accord avec toi, sur la nécessité de faire des études épidémiologiques, comme tu les envisages, je suis tout à fait d'accord aussi, là, sur le principe, je vais l'expliquer aussi. Mais comme je l'ai dit en conclusion, je ne sais pas si on peut, parce que les études épidémiologiques telles qu'on les conçoit vont demander énormément de temps. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si on peut attendre d'avoir les résultats de ces études-là parfaites, tout à fait. Et je ne sais pas si on peut se permettre d'attendre par rapport justement à l'évolution des pathologies. Je pense que au niveau réglementaire, on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir les résultats des études épidémiologiques, mais se baser effectivement sur des études expérimentales sérieuses, chez l'animal, sur le cellule en culture, etc. Ça peut être fait d'accord. Dès qu'on a des arguments expérimentaux implacables, je pense qu'à partir de ce moment-là, on doit prendre des décisions réglementaires, toujours en continuant, bien sûr, les études épidémiologiques pour vraiment avoir la confirmation. Mais ce phénomène, ce fait d'attendre, je pense que là, on risque de le payer cher dans 10-15 ans, s'il faut attendre 10 ans pour avoir la preuve épidémiologique ultime. Je veux juste raconter ça.
Alors, allez-y.
Est-ce que je peux me permettre de faire une remarque et en même temps vous poser une question d'ordre un peu plus général par rapport à ce que j'ai entendu depuis ce matin et qui me passionne? Je me dis, on entend, comment on est qu'il y a des recherches qui sont faites, il y a des gens qui travaillent, il y a des chercheurs, il y a des résultats qui sont publiés, dans des endroits relativement restreints. Ce que je veux dire, je milite depuis très longtemps. En 1976, je faisais partie du groupe Information Santé, et à l'époque, il y avait un jeune interne qui est devenu le professeur Boutin, qui nous avait alerté, nous, groupe Information Santé, nous étions des étudiants, sur les dangers de l'amiante. On a fait passer des dossiers partout, aux politiques, aux médecins. C'est resté je ne sais combien d'années avant qu'on parle de l'amiante. Il y a des tas d'autres choses qui sont faites comme ça. Ici, nous entendons des choses passionnantes. Combien de temps allons-nous attendre pour qu'il y ait des mesures effectives? Alors, est-ce qu'on doit passer par les politiques? Et à mon avis, ça ne peut pas. Il y a trop d'enjeux économiques qui font que ça ne peut pas aboutir. Est-ce qu'on doit passer, au contraire, par la base? Et c'est mon avis, c'est-à-dire faire un travail au maximum d'informations au niveau des cabinets, au niveau des associations, de façon à faire passer un message qui passe vraiment. Parce que si on attend que les politiques fassent quelque chose, eh bien on va attendre encore 100 ans. Et on a l'impression que ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère, et on n'y peut rien. Alors, je vous pose la question.
Alors, est-ce que, M. Dalbon, est-ce qu'on n'y peut rien? Non, on n'y peut pas rien. Je citerai l'exemple de l'action que nous avons menée au réseau environnement santé avec l'exemple du bisphénol. Nous avons justement, partant de la base, c'est-à-dire des médecins, des scientifiques, des associations de malades, nous avons, disons, secoué le cocotier et apporté des preuves expérimentales, des preuves, je veux dire, à partir de la littérature scientifique, envoyé ça aux agences sanitaires, envoyé ça aux hommes politiques de partout, montrant qu'effectivement il était temps d'agir au niveau du bisphénol A parce que ça représentait un véritable danger sanitaire pour les populations présentes et à venir. Et donc, à force effectivement de pousser, on a été entendu et là effectivement le politique a pris le relais et bon, grâce à certains députés comme le député Gérard Bat, effectivement, a fait cette proposition de loi visant à interdire le bisphénol dans les biberons, c'était la première étape de notre combat, et puis ensuite de l'interdire définitivement dans tous les continents alimentaires. Alors bon, c'est une première étape, il s'agit pas maintenant de se reposer, d'aller sous le soleil et dire bon, nous, on a gagné, et puis finalement, on sera non. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a tant d'autres de molécules, mais donc on continue effectivement, parce qu'à l'avenir, on continue le combat sur d'autres molécules, et c'est toujours effectivement en partant de la base, en partant de l'analyse que nous faisons des données scientifiques, nous portons ces données scientifiques au niveau du politique, au niveau des agences sanitaires, parce qu'il faut quand même aussi le Parlement qui peut leur ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur les données scientifiques valides, bien sûr.
Merci. En tout cas, la légitimité de ce congrès n'avait pas besoin d'être réaffirmée, mais vous venez de le réaffirmer très fortement, monsieur.
Oui, bonjour à tous. Bonjour, Philippe Courbon. Je fais écho au débat qui se tient actuellement et aux propos tenus par notre ami le docteur Joël Spirou ce matin, parce qu'on voit bien que votre colloque, comme parmi d'autres, et fort justement et fort heureusement, repose les questions des contours de la responsabilité politique, scientifique, citoyenne, qui viennent revisiter la question de la démocratie sanitaire. Enfin, c'est deux termes qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude d'associer, mais ça se pose bien en ces termes-là, dès lors que l'on part du principe que la santé est un bien commun, qu'elle appelle toutes les complémentarités d'approche sans exclusivisme, qu'elle doit être nourrie par une ouverture scientifique, et il est frustrant de voir que finalement les lignes ne bougent, enfin, de mon point de vue, que parce que nous avons dans ce pays, comme dans l'Europe et de par le monde, un certain nombre de gens qui sont des lanceurs d'alerte ou des commissions indépendantes qui, avant tout le monde, journalistes d'investigation, scientifiques, plus rarement des politiques, mais il y en a eu au passage qui l'ont fait, viennent tirer la sirène d'alarme et sur le bisphénol, et sur les pesticides, et sur les OGM, et sur les contaminants, etc. Donc, de cette observation, je décline une observation et quatre questions, si vous permettez. L'observation est la suivante, c'est que, est-ce qu'on est devenu fou d'avoir tellement segmentisé notre rapport de la santé à perdre de vue le lien total, indéfinissable et pourtant très présent du lien de l'humain vis-à-vis du monde vivant. Et ne faudrait-il pas réhabiliter une écologie, alors je vais employer des gros mots, mais je vais dire une écologie autant de la santé qu'une écologie environnementaliste, pour ne pas dire réconcilier la santé publique et la santé environnementale, qui, en tout cas en France, restent encore très fermées les unes par rapport aux autres, même s'il y a quelques avancées, et ce colloque en témoigne. Je voudrais tirer, si vous permettez, très rapidement quatre analyses par rapport à ça, et qui touchent plus spécifiquement à la sphère médicale et au rôle du médecin dans le champ de la prévention et de la santé environnementale. Le premier, celui de la prévention. Ça a été dit et redit plusieurs fois, mais combien c'est important de dire que le soin n'est pas la santé. Non pas qu'il n'est pas complémentaire, mais qu'il est dans l'aspect thérapeutique, et qu'avant l'aspect thérapeutique, il devrait y avoir l'aspect préventif. Et je rappelle les travaux du Conseil économique et social, qui dans ses rapports de 2003 sur l'éducation à la santé et la promotion de la santé, disent deux choses. Un, que l'éducation à la santé est le parent pauvre de toutes les institutions en France, et que la prévention n'en a jamais fait aussi peu. Et pour en rajouter une troisième couche, il va jusqu'à dire que les endroits où l'alimentation est la plus déplorable, où il y a la moins grande exemplarité, c'est dans les institutions étatiques, et notamment dans les établissements scolaires en gérontologie et dans les hôpitaux. Vous voyez, c'est quand même paradoxal, c'est-à-dire qu'on parle de béaba de prévention et les lieux qui devraient la faire la font notamment mal. On se pose la question également de la formation des professionnels de santé, alors des médecins en particulier, mais au-delà de l'aspect professionnel de santé dans le domaine du champ de l'éducation à la santé et de la prévention. Et puis, sur ce que vous avez très justement dit, Gilles Malbonne, sur la question de l'épidémiologie, on renvoie au livre de notre ami André Sicolella, le défi des épidémiologies modernes, c'est bien un changement de culture qui se pose. Et ce n'est pas un déni à l'épidémiologie ni à Pasteur que de dire que l'épidémiologie infectieuse qui a présidé pendant des années est aujourd'hui désuète, inadaptée pour les maladies de civilisation qui naissent de plus en plus confrontées aux enjeux environnementaux. Et quand vous voyez des gens comme le professeur Picot qui signe une tribune, professeur André Picot, toxicologue, bon, ils sont peu nombreux, vous les connaissez comme moi, c'est une espèce en voie de disparition, et qui dit jamais on a eu autant besoin dans notre pays de toxicologues, jamais il y a eu aussi peu de financement pour la recherche. Donc ça, c'est un enjeu sur l'épidémiologie. Et puis, puisque c'est débattu au niveau des instances parlementaires, il nous faut, je crois, aussi agir le plus qu'il est possible auprès de nos parlementaires, ils sont nombreux dans ce pays, 577 députés, 321 sénateurs, pour qu'on ait des dispositifs législatifs de la protection des lanceurs d'alerte et de l'expertise indépendante. Voilà, c'est quatre éléments sur lesquels peut-être Joël Spirou, qui avait ouvert le champ d'une façon très opportune dans son introduction de ce matin, pourra peut-être vous éclaircir maintenant. Merci beaucoup.
Peut-être le docteur Spirou ne peut pas répondre à tout, parce que c'était un petit discours que le vôtre, plutôt que des questions, mais peut-être, monsieur Spirou, sur la formation, peut-être un mot sur la formation de discipline que vous avez évoquée.
Et sur la formation en santé environnementale, d'abord, force est de constater qu'il n'y a pas dans la formation primaire des médecins de cours de santé environnementale. Donc, à partir du moment où ça n'existe pas, où ce n'est pas fait, ça n'existe pas dans la tête de nos jeunes médecins, pour la plupart. Donc, ça, c'est un grand problème. Donc, il faudrait réussir à faire des heures de santé environnementale dans les études primaires en médecine. Et puis, après, des études des diplômes universitaires en poste universitaire. On est en train, en Basse-Normandie, d'essayer d'en monter un pour 2014. Et je vous assure que c'est un vrai parcours du combattant. Parce qu'on n'est pas encore franchement dans le vent de l'histoire, mais il y a du travail à faire. Et ça avance, il faut être confiant quand même.
Voilà. Oui. Pardon, allez, j'aimerais ajouter deux choses. Bon, il n'a pas été dit une chose qui est en filigrane, mais derrière tout ça, c'est la puissance des lobbies. Donc, vous, médecin généraliste, le lobby, vous savez ce que c'est, puisque vos cabinets sont envahis de visiteurs médicaux. C'est une forme de lobby. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'il avait été décidé, il y a quelques années, de l'interdiction de la publicité aux heures d'écoute de l'après-midi, donc des heures où les gamins et les adolescents écoutent. Donc, interdiction de la publicité prenant la vente. consommation de denrées riches en sel et en lipides pour prévenir l'obésité, l'explosion de l'obésité chez les jeunes gens. En première instance, à l'Assemblée, c'était passé, ça a été refusé par le Sénat. Et en seconde lecture, ça a finalement été abandonné. La seule chose qui a été retenue, c'est que maintenant, les fabricants, pendant les publicités, doivent indiquer un tout petit bandeau, à une très petite lettre, que l'abus de ces denrées, donc trop sucrées, trop salées ou trop grasses, peut nuire à la santé. Voilà, donc ça c'est un exemple de lobbying. J'imagine que Mme Berthel Geoffroy, demain, nous indiquera comment la société belge Eternite, via la création du comité permanent de l'amiante, a pu imposer à nos gouvernements successifs pendant des décennies un retard énorme du point de vue législatif sur l'interdiction de l'amiante. D'accord ? Donc, vous avez vu, vous avez en tête le scandale du Mediator, et c'est une de vos collègues, l'homologue Irène Frachon, qui a beaucoup lutté là-dessus, qui avait déjà alerté plusieurs années auparavant, avant qu'enfin le scandale n'explose. D'accord ? Donc, il y a des politiques de bonne foi, et puis il y a des politiques qui sont prises entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que trop réguler contraint l'activité industrielle humaine, et donc c'est autant d'emplois qui risquent d'être impactés. Donc, les politiques, même s'ils sont de bonne foi, eh bien, sont plus que circonspects dès lors qu'il s'agit de réglementer puissamment. D'accord ? C'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte.
Merci. En tout cas, s'agissant du Sénat, le sénateur Maire n'étant plus là, on peut difficile d'interpeller sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a une question là.
Merci, monsieur. Je me présente Henri Becker, je suis médecin neurologue depuis 20 ans à l'hôpital Pierre Nouveau à Cannes. Je voudrais mettre un vrai mot à ce qu'a dit M. Spiro, parce que je pense que ce n'est pas tout à fait exact, avec le respect que j'ai pour lui. D'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de ce congrès, parce que moi, je suis un béotien et moi, j'ai beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on puisse parler des facteurs environnementaux pour les maladies neurodégénératives. Je travaille depuis 10 ans maintenant à la Mayo Clinic avec à Rochester, avec William Peterson, qui est le pape de la maladie d'Alzheimer. On a cherché les causes, multiples et variées. Autant le cancer médulaire de la thyroïde ou les dysthyroïdies, je pense, en mon âme et conscience, que c'est le nuage de Tchernobyl. J'en suis intimement convaincu. Avec mes maîtres vagues ici, je veux dire, tous ceux qui m'ont appris l'endocrinologie, je pense que le Tchernobyl, on l'a pris sur la figure par de nombreuses expressions triviales. Pourquoi on parle de 18% d'augmentation de la maladie d'Alzheimer? Tout simplement, c'est sûr, je suis d'accord avec vous, monsieur, on n'a pas une augmentation de la courbe en quelques années du vieillissement. Bien que moi, je suis dans une ville à Cannes où près de 35% de la population de la ville a plus de 65 ans. Autrement dit, il faut faire des services de gériatrie, non pas des services de pédiatrie. La chose suivante, c'est qu'on ne sait pas la cause. Autrement dit, si vous voulez, c'est déjà assez anxiogène, les maladies neurodégénératives. Pour dire que peut-être Tchernobyl ou que l'aluminium qui est dans le thé vert, moi j'en bois du thé vert très journée. Je veux dire, je respecte tout à fait ce qu'a dit mon confrère qui me dit qu'il y a de l'aluminium. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va boire, hein. Alors, il y a d'articles qui disent à Bordeaux qu'il faut boire du Bordeaux, mais il est de Bordeaux, pour prévenir la maladie d'Alzheimer. J'ai lu, et c'est la Mayo Clinic qui le dit, que quand on fume, on prévient la maladie Parkinson. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas faire de l'algame, on a un point d'interrogation. Si on commence à dire que c'est les nuages de Tchernobyl, que c'est l'aluminium dans l'eau, ou éventuellement parce qu'on avait une souris grise, je pense que, si vous voulez, ça peut poser problème. C'est-à-dire qu'en plus, dans la conscience collective, c'est très anxiogène. Et c'est pour ça que je pense actuellement, je termine là-dessus, vous savez, je crois que les 18%, monsieur, ils sont liés au fait que les gens, ils travaillent et ils essayent, si vous voulez, de faire le diagnostic le plus précoce possible. Vous avez actuellement dans le monde des IRM à 7 Tesla, à la Timone, on a 1,5 Tesla, qui montrent les plaques amyloïdes de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire bientôt, pardonnez-moi l'expression triviale, le trou du cul de la mouche, on le verra à l'IRM. Autrement dit, si on fait le diagnostic de la maladie d'Alzheimer neuroradiologiquement, on pourra appréhender beaucoup plus facilement cette pathologie qui touche 860 000 personnes en France actuellement, et près de 5 millions d'Américains. Voilà, c'était simplement, n'y voyez pas de ma part de l'agressivité ou quoi, mais monsieur, on n'a pas le droit de dire que c'est l'environnement qui donne les maladies neurodégénératives. On n'en sait rien, monsieur. On est dans le néant complet.
Alors, on n'en sait rien, mais ça n'empêche pas de vouloir chercher, en tout cas, et de vouloir trouver. Donc, c'est toute la question. Cela dit, sur le caractère anxiogène de toutes ces recherches, il est évident. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour décourager les chercheurs, et parce que... Alors, ça viendra avec le temps de la recherche, la preuve viendra, j'imagine. Enfin, je ne sais pas si elle viendra sur ce point, sur le nuage de Tchernobyl, tous les Corses... Oui, bien sûr. Il fait de l'argent, il y aura beaucoup d'argent privé, donc de l'argent venant aussi des laboratoires. Donc on retrouve, et je veux dire, c'est la complexité du monde moderne. En même temps, l'âge, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter dans nos pays, y compris en France. Alors je sais que vous faites non, parce que en fait, l'âge de l'espérance de vie augmente, mais simplement, à partir d'un certain seuil, on vieillit en moins bonne santé. Alors c'est le correctif à introduire. Mais malgré tout, le critère absolu progrès dans les sociétés humaines, c'est l'âge de l'espérance de vie. Et il a quand même très fortement augmenté dans nos pays.
Donc, ce dont vous parlez, c'est une estimation statistique. Parce que pour estimer réellement l'espérance de vie, il faudrait attendre que tous les échantillons d'une classe soient morts. D'accord ? Pour relever leur âge de mort. Donc, ce qui est donné, ce sont des estimations statistiques. D'accord ?
Oui. Au-delà, quand même, parce qu'on on voit bien, enfin, je veux dire, c'est quand même très corrélé.
Qui prennent en compte. Donc,
c'est quand même un instrument de mesure non négligeable.
Non, mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que lors du traitement statistique, entre en ligne de compte, par exemple, un pourcentage qui est lié au progrès de la médecine. Donc, le statisticien, lui, la médecine progresse, donc forcément, dans les années qui viennent, ça aura un impact sur les
gens aussi. Je veux dire, la photographie actuelle de la population française, je veux dire, elle est aussi très explicite. Et la part, j'allais dire, des plus de 50 ans dans cette population, elle est aussi majoritaire et très explicite.
C'est faux.
Et la manifestation.
Non.
Il faudra aller voir l'INSEE.
Non. Ce sont les moins de 50 ans qui sont majoritaires encore dans ce pays. Les plus de 65 ans représentent moins de 20%.
Proportion.
Alors, il y a trois mois, dans le monde diplomatique, il y avait un article exactement là-dessus qui revenait sur les mensonges ou des lieux communs assénés sur les médias.
Le monde diplomatique n'est pas la Bible, mais ça, c'est un autre sujet. On va repasser la parole à la salle parce que je ne voudrais pas faire diversion.
Je représente plusieurs associations d'environnement. J'ai trouvé ce congrès vraiment très, très, très intéressant. Il y a toutes les personnes qui sont intervenues. Je dois dire, comme la dame d'en bas, mais ça fait plus de 50 ans que j'assiste à des symposiums, des congrès, des colloques, des forums, etc. Et nous en sommes toujours à fabriquer ce qui pollue et ce qui nous rend malade. Donc, comme disait cette dame, on ne peut pas compter seulement sur les politiques, mais il faut aussi faire avec eux, pas compter sur eux, un petit peu les obliger. Alors déjà, au niveau citoyen, il existe des conseils de développement dans les agglomérations. Dans ces conseils de développement, il y a des ateliers où on travaille, on peut se faire entendre, on peut écrire dans les SCOT, les différents documents d'urbanisme, etc., ce que nous voulons un peu, et ensuite pousser pour le faire réaliser. Et quant à un autre niveau, je pense qu'il faudrait créer un ministère santé-environnement éthique. L'éthique, je ne sais pas si on le met au début ou à la fin, mais en tout cas, il faut ce mot éthique. Parce que c'est un peu ce qui peut nous permettre de faire des choses sans trop dévier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe au sujet suivant?
Je voulais juste vraiment...
Oui,
allez-y. Non, mais s'il y a quelqu'un dans la salle.
Non.
Oui. Ici, s'il vous plaît.
Si, oui. Là-bas.
Merci pour vos interventions. J'avais une question un peu polémique. Pour savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, de l'utilisation des nanoparticules et des perturbateurs endocriniens dans le développement des médicaments. Est-ce qu'on a un peu de visibilité? Qu'est-ce qu'on en sait?
Dans le développement des médicaments, perturbateurs endocriniens, monsieur.
Et nanoparticules.
Et nanoparticules ensuite. Qui veut répondre d'abord?
Donc, en ce qui concerne les nanoparticules, celles d'or sont utilisées par exemple dans le traitement du cancer ou dans certains diagnostics médicaux. Donc le principe est le suivant. On enrobe d'un composé chimique les nanoparticules d'or et les chimistes appellent ça la vectorisation, ils grèvent des molécules, notamment par exemple des antigènes, des anticorps qui vont reconnaître des antigènes de surface, par exemple des antigènes présentés par des cellules tumorales. Donc l'idée, c'est que lorsque les particules se seront fixées à la surface des cellules tumorales sur leur antigène, l'application d'un champ magnétique intense va provoquer une élévation de température localement au niveau de la nanoparticule qui va tuer la cellule tumorale. D'accord. Donc, on sait très bien de toute façon que le médicament est un toxique et qu'il ne doit être utilisé que pour le bienfait du malade et dans le seul laps de temps, une partie dans le traitement. Donc, il n'y a pas de, éthiquement et moralement de paiement à apporter là-dessus. D'accord.
Juste pour répondre très brièvement au problème des médicaments, des perturbateurs endocriniens, je ne peux pas dire que les médicaments qui sont produits actuellement fabriqués sur le marché aient des effets secondaires de type perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas trop si un antihypertenseur ou un hypocholestérolémien a des activités de perturbation endocrinienne, je serais incapable de répondre. Mais par contre, la chose sur laquelle je peux répondre, c'est l'enrobage de certains médicaments, par exemple des gélules, des capsules molles, qui sont composées de phtalates. On sait pertinemment que le phtalate, effectivement, sont les perturbateurs endocriniens. Donc là, il y a vraiment aussi une réglementation urgente à prendre sur le conditionnement de certains médicaments qui contiennent des phtalates. Et je voulais répondre à Jean-Marie Colombani sur le problème, très rapidement,
sur diversion.
Oui, sur le problème justement du vieillissement de la population. Aux États-Unis, déjà, l'espérance de vie brute diminue. L'espérance de vie en bonne santé en France commence à se stabiliser, voire diminue en Allemagne. Donc là, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que la génération actuelle de centenaires, on peut dire, c'est fabuleux, tous ces centenaires, c'est une génération privilégiée parce que ces gens-là, leurs parents n'ont pas été exposés aux polluants tels que les générations actuelles, comme les parents de nos générations actuelles ont été exposés. Donc ces gens-là, ces centenaires, ces gens qui ont 90 ans, 95, voire 100 ans, bénéficient d'une part d'une exposition minime de leurs parents aux polluants et bénéficient des progrès de la médecine, ce qui fait qu'effectivement, on a des gens qui vivent très vieux. Je ne suis pas sûr, avec justement ce problème, depuis l'avènement de la chimie, depuis les 50 ans, je ne suis pas sûr, et quand on voit l'explosion des maladies chroniques, diabète, obésité, cancer, je ne suis pas sûr que cette espérance de vie continue à augmenter. Malheureusement, je crains qu'elle diminue. Ouais.
Merci. Donc, ma tentative pour sortir un peu de la production d'anxiété collective a échoué. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va passer retour à...
Moi, je voulais poser une question par rapport à revenir sur le problème des vaccins et surtout sur les problèmes des adjuvants de l'aluminium. Est-ce que ça a été mesuré? Est-ce qu'il y a des études là-dessus?
Oui, alors d'abord, bien avant l'aluminium, qui est un métal tout de même peu toxique. Franchement, l'aluminium est peu toxique. En revanche, dans les vaccins, il y avait du tinérosave ou du mercure en tant qu'agent conservateur. Et précisément, les formes les plus toxiques du mercure sont les formes organiques. Par exemple, le tinérosave, c'était une véritable catastrophe. Et là, enfin, les pouvoirs publics ont réagi en interdisant depuis quelques années l'utilisation de ces conservateurs à base d'organons mercuriels. D'accord. L'aluminium, on sait qu'il est incriminé dans l'explication de certains cas de sclérose en plaques liés à des vaccinations. Et comme notre collègue l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas encore de preuves scientifiques. On peut émettre l'hypothèse, parce que, bon, effectivement, on le sait, à haute dose, l'aluminium provoque l'agglomération et l'accumulation de plaques liées à la protéine Tau, qui va jouer un peu le même rôle que les plaques bêta-amyloïdes. D'accord. Mais ce n'est vu qu'à très haute dose, à des doses qui sont totalement très, très éloignées des us et coutumes humaines en termes de quantité d'aluminium ingéré par voie et par consommation d'aliments ou même de thé. De très gros consommateurs de thé, que sont par exemple les Japonais ou ou les Britanniques ne sauraient accumuler quotidiennement une quantité raisonnablement toxique d'aluminium. Donc, moi qui suis toxicologue, je m'interroge sur. Je n'ai pas parlé d'hystérie, mais je trouve qu'on fait un énorme battage sur l'aluminium, alors qu'en revanche, nous consommons du mercure dès lors que nous mangeons du poisson. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas débattu, qui n'est pas discuté. Et dont on a délivré des conclusions dans de la littérature, qui n'ont fait aucun bruit, puisque finalement les journalistes ne lisent pas la littérature scientifique.
Absolument.
Donc, par exemple, sur les souris, lorsqu'on leur fait ingérer par des croquettes une dose environnementale pertinente, en termes de chair de poisson lyophilisée, que j'ai acheté chez Picard, mélange thon, espadon et morue, à hauteur de 5% dans leur croquette, eh bien on se rend compte, après plusieurs mois d'ingestion dans tel régime, que dans différentes tranches du cortex cérébral, le niveau de la densité neuronale diminue d'environ 20%. Nous avons publié ça, et ça fait que Non, parce qu'il y a des nutriments essentiels et très bénéfiques pour notre santé dans le poisson. Donc, il faut favoriser les poissons riches en acides oméga 3 et 6 et pas en mercure. Et c'est le genre de recommandation qui devrait être beaucoup plus prégnante dans le discours sanitaire en France. Exactement, il faut éviter les gros poissons carnivores qui accumulent le mercure.
Je voulais juste préciser que ça a quand même, il y a quand même eu des recommandations de la part de l'Institut sanitaire et de l'agence qui s'occupe de l'alimentation pour les femmes enceintes et les enfants. Il a recommandé de manger moins de poissons, pas plus de 2 fois par semaine,
oui.
À cause de justement de ces toxiques, notamment ces lourds. Mais de continuer à manger pour garder les bénéfices des bons nutriments et de choisir ces espèces. Donc il y a eu quand même des recommandations de faire pour la santé.
Oui, mais le cerveau des femmes non enceintes est le même que celui des femmes enceintes ou que celui
oui,
des hommes.
Oui, mais le cerveau aussi et pour toute la population, mais c'est vrai que les recommandations elles ciblent souvent les populations les plus sensibles ou les plus à risque, et c'est souvent les enfants et les femmes enceintes. Mais d'ailleurs, c'est recommandé aussi, il y a aussi des recommandations pour la population générale.
Donc, cette recommandation est liée à la protection du fœtus, essentiellement. D'accord. Donc, ce qui signifie que l'NVS et l'ASS refusent l'idée que la population française soit à risque du point de vue de la consommation des poissons en termes de mercure. C'est très curieux.
Je ne crois pas qu'elle se limite. Il y a eu des précisions pour les femmes enceintes. On a attiré l'attention parce que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, la période qui fait le poison. Mais il est recommandé de consommer, de ne pas consommer du poisson tous les jours. Il est recommandé de choisir ses espèces, de ne pas prendre toujours les mêmes et de ne pas prendre les plus.
Tels que le thon et l'espadon. C'est une folie de manger du thon tous les jours l'été. À travers par exemple des salades. Hein. Les gens ont tendance à mettre du thon en miettes, du thon en boîte, dans leur salade de tous les jours, c'est une folie.
Bonjour, Dr. Kobalik, RPS Réunion, donc survivant du chikungunya, survivante plutôt. Effectivement, je tiens plus à dire, à faire plutôt une information qu'une question. J'ai fait partie des médecins qui, effectivement, ont parlé à l'époque, c'était la DRAS, au moment de l'épidémie du chikungunya. Et après, nous avons vécu aussi le H1N1 en avant-première, puisque la réunion a démarré. À chaque fois, j'ai eu possibilité de parler avec les politiques. Alors, je crois qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec votre discours. Le médecin traitant, en fait, est un acteur majeur de santé publique et très discret dans ce rôle-là. Je crois qu'il faut qu'il le revendique, qu'il le dise beaucoup plus. Lorsque nous avons dit qu'il fallait mettre les gens en quarantaine, ça n'a pas du tout été écouté. Il y a eu la rentrée scolaire, il y a eu une flambée de l'épidémie du chikungunya. Enfin, après, l'épidémie, elle s'est développée à La Réunion parce qu'il y a une forte tradition d'aller voir les gens malades, ce qui fait qu'en fait, ils étaient contaminés immédiatement, ils allaient voir, et puis c'était impressionnant d'envoyer les gens de la rue, ça allait de maison en maison, et de rue en rue, et de quartier en quartier. Donc, en fait, voilà, j'ai pas de pareil pour l'épidémie d'H1N1. À l'époque, on en avait parlé avec Mme Bachelot. On lui a dit que c'est une épidémie qui, effectivement, touche les jeunes, qui est très contaminante, mais qui n'est pas mortelle. Et vous avez vu ce que c'est entraîné par derrière. Et nous sommes très peu écoutés. Non, je crois que c'est ça, surtout. On est très peu et très peu écoutés, alors qu'il a effectivement, je trouve admirable ce que vous avez fait. Vous avez le courage d'aller chercher le chikungunya et d'aller chercher les moustiques au fond de la campagne. Et donc, c'est très bien, et ça prouve qu'effectivement, quand nous sommes là, quand nous sommes présents et quand nous arrivons à parler politique, on peut de temps en temps faire changer les choses. Mais c'est dommage qu'il faille crier au loup pour que ça arrive enfin de temps en temps que les chasseurs arrêtent.
J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mes confrères de la Réunion. Et je pense à un confrère qui me disait un jour, par mail, je ne sais toujours pas qui c'est d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait encore que j'existe ? Je veux dire, cet isolement des médecins généralistes, c'est quelque chose qui est insupportable. Je crois que vu la responsabilité et l'amour que vous avez pour votre population, vous méritez d'être largement plus supporté qu'actuellement.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, docteur Frey, je suis médecin hospitalier à Lyon. Alors, parmi les médecins hospitaliers, il y a quelque chose qui a circulé au moment de l'épidémie de chikungunya à La Réunion. Parce que nous avons un système un peu de mail interne à la profession avec les informations diffusées. Et dans les premiers médecins qui ont parlé de cette épidémie, ils se sont fait pour le moins rabrouer purement par leurs instances de l'ARS ou de l'ARH de l'époque, parce que on les a taxés de pessimisme et de donner des nouvelles exagérées d'un état de santé qui n'était, paraît-il, considérable que cela. Donc là, il y a eu quelque chose, et ces médecins nous parlaient régulièrement de la difficulté face à leurs instances. Autrement, je voulais juste donner deux petites précisions pratiques. Peut-être est-ce parce qu'il a traversé déjà la Méditerranée et ensuite la Durance pour arriver jusqu'en Vaucluse, enfin, avant d'arriver en Vaucluse, mais chez nous en Vaucluse, le moustique pique aussi le soir, le moustique tire. J'en ai dans mon jardin, j'en ai dans ma cave, j'en avais vu au Laos 2 ans avant, mais je peux vous dire que quand je les tape et les écrase, ils sont hachurés de blanc, c'est bien des
tirs. Il peut piquer toute la journée, mais il y a deux pics. Il peut piquer même la
nuit. Moi, j'aime bien piquer.
Il y a deux pics, un petit pic à 14h et un petit pic à peu près vers 18h. Un grand pic à 18h.
La deuxième remarque, c'est que je m'intéresse à l'environnement et aux produits. J'ajouterais que les moustiquaires imprégnés sont fortement déconseillés aujourd'hui parce qu'elles sont imprégnées des insecticides utilisés en agriculture et aux toxiques. Donc le ministère de l'Agriculture nous rappelle que c'est les produits qui font l'objet des campagnes de zéro pesticide. La permethrine en particulier est utilisée. Donc on conseille de n'emporter de moustiquaires imprégné que dans des pays fortement impalludés ou autres. Et j'ai passé l'été dernier sous une moustiquaire normalement constituée mais sans insecticides et je n'ai pas été piqué du tout. Donc, voilà.
Très bien, merci pour ce témoignage. Vous vouliez réintervenir, madame. On vous donne un micro.
Par rapport à l'isolement du médecin, il nous était venu à l'idée il y a 82-83, de créer avec le groupe médical dans lequel je travaillais ce qu'on avait appelé, j'étais dans le 7e arrondissement de Marseille, l'antenne médico-sociale du 7e arrondissement. C'est-à-dire qu'il y avait un regroupement de tous les professionnels de santé, de tous les travailleurs sociaux, de tous, y compris des enseignants, enfin, tout le monde actif autour de la santé, de la vie du quartier. Et il s'agissait d'avoir suffisamment de gens volontaires pour pouvoir, un jour, on fait un numéro, il y a une personne qui, ça m'était arrivé, donc j'arrive chez une vieille dame qui refuse de se faire hospitaliser, il est 10h du soir, comment faire pour faire venir le laboratoire, lui donner à manger le lendemain, avoir l'infirmière, donc il suffisait de faire ce numéro et d'avoir effectivement tous les intervenants possibles pour soulager cette dame. Ça aurait été l'occasion de faire également des réunions d'information sur le quartier. Malheureusement, ça n'a pas eu ça n'a pas été retenu parce que on avait réuni beaucoup de monde, c'était au bon part, parce que nous étions catalogués comme médecins de gauche et on avait craint qu'on fasse un centre de santé intégré. Et en fait, ce n'était pas du tout ça. Et je dis aux jeunes médecins, aux médecins qui ont encore la force, ce serait intéressant de faire cette antenne médico-sociale de façon à avoir un numéro, un endroit où se retrouver, un endroit où faire de la formation à la base.
Merci de ce témoignage aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres sujets que vous voulez resoulever à nouveau? Ou sinon, oui, monsieur le docteur Spiro, là, qui est là devant.
Désolé de reprendre la parole encore une fois. J'ai entendu plusieurs fois qu'on faisait peur un petit peu avec ce type de congrès. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'est la vraie vie. Au contraire, on ne se bat jamais aussi bien quand on sait contre quoi on se bat. Donc, ce n'est pas faire peur, c'est dire effectivement comment ça se passe. Pour l'instant, on était sous un édredon douillé, tout allait bien. L'homme était à l'extérieur de la nature, maintenant on s'aperçoit qu'on a des effets délétères sur notre santé, et donc on voit comment ça se passe, et ça c'est pas grave. Et puis il y a plusieurs personnes qui se sont dit, ça fait longtemps, il y a beaucoup de temps entre le moment où on s'aperçoit de quelque chose et qu'on commence à bouger. Eh bien je vous donne de la lecture dans ce cadre-là, l'Agence européenne de l'environnement a publié en 2004 « Signaux précoces ou sont tardifs », je vous invite à lire ça, ils prennent 15 ou 16 xénobiotiques, qui avaient fait la preuve de leur toxicité humaine au minimum une cinquantaine d'années avant qu'on commence à s'en occuper de façon officielle. Et en février 2013, ils viennent de sortir un gros pavé, signaux précoces se sont perdus sur les mêmes, enfin pas sur les mêmes produits, mais sur d'autres produits, 400 pages, donc je vous indique de les lire, qui ne sont pas encore traduites en français, c'est en anglais, et je vous invite dans vos longues soirées d'hiver à lire ça, parce que c'est évocateur de cette lenteur entre le moment où au point de vue scientifique, on met en évidence des impacts sur la santé et qu'on commence à bouger au point de vue politique et économique. Ça, c'était pour votre culture générale. Et pour répondre à mon confrère neurologue, je ne sais pas où il était tout à l'heure.
Ah, il était dans le haut des 3D, mais il n'est plus là.
C'est un peu dommage. Je me méfie énormément des arguments du style si on a une augmentation de telle pathologie, c'est parce qu'on a des pistes mieux. On nous a fait le coup il y a 20 ans avec le cancer. Quand on avait commencé à avoir l'augmentation des cancers en France, on nous disait tout le temps, dès qu'on alertait la population pour ça et puis les confrères, oui mais c'est normal, on dépiste mieux. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On a une vraie épidémie de cancer et c'est le cancer la première pathologie, la cause de décès en France à l'heure actuelle. Et je vous donne un autre exemple, c'est qu'il y a 5 ans encore, l'INVS, en parlant des cancers, disait... Il y a 30% des cancers qui sont dus à l'alimentation, à la drogue, au tabac, etc. Donc on culpabilisait naturellement la population. 3% des cancers dus à l'environnement et le reste, on ne sait pas. Alors moi, je suis désolé, mais le reste, on ne sait pas, c'est que ça vient bien quelque part, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc c'est bien dans le bain dans lequel nous sommes qui produit quelque chose. Et j'attire votre attention sur un dernier point, en particulier sur les maladies neurodégénératives et quelques autres maladies. Je pense qu'il faut bien comprendre, et là, ça donne du domaine de la recherche à avancer encore plus, il faut bien comprendre quand même que tous ces produits toxiques qui se stockent dans notre organisme, dans nos graisses, dans notre sang, dans nos muscles, foie, reins, etc., on peut très bien comprendre que ça entraîne des perturbations dans la communication entre les cellules. Vous savez que les cellules, avec les mécanismes d'apoptose, etc., communiquent entre elles. Quand il y a des grains de sable dans un rouage mécanique, eh bien vous savez bien que le rouage en question a du mal à survivre. Eh bien, les communications entre nos cellules, mais c'est aussi, loi de biologie générale, la communication entre humains, quand elle se fait mal, la communication entre humains, eh bien, il y a souvent aussi des problèmes qui apparaissent. Et je pense que c'est du même ordre. Hein, et donc, la vision écosystémique des pathologies, je pense que ça nous aide à bien prendre conscience de ça.
Merci. Mais je voudrais juste poursuivre d'un mot avec vous, si vous le permettez, parce que d'abord, il faudrait redire la publication dont vous avez parlé et en conseiller la lecture aux journalistes médicaux, si j'ai bien compris.
Oui.
Ça serait indispensable.
Si nos précautions sont tardives, Agence européenne de l'environnement, ça se trouve sur Google.
Vous citez l'Agence européenne, on a cité aussi à travers soit les fonctions de ceux qui ont défilé à cette tribune, soit à travers les exemples qui ont été donnés, d'une multitude d'agences, d'instances, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout, les dispositifs d'alerte progressent? Le temps se raccourcit entre le moment où on peut en effet avoir conscience de tel ou tel danger et les actions qui sont prises ensuite par les pouvoirs publics à différents niveaux, notamment européens. Ou est-ce que vous avez toujours à votre place, et malgré l'assistance nombreuse ici, le sentiment de prêcher dans le désert?
Écoutez, au niveau des agences, et c'est notre ami Jean-Paul qui parlait des lobbies, il y a tellement de lobbies que ces notions-là n'arrivent pas encore. Il faut quand même vous rendre compte, par exemple, pour les pesticides dont on a parlé, un des premiers perturbateurs endocriniens, eh bien, à l'heure actuelle, pour la mise sur le marché d'un pesticide, eh bien, n'est dosée que la molécule dite active. Je prends le cas, par exemple, d'un pesticide que je connais bien, puisqu'on y a travaillé dans le laboratoire de biologie moléculaire à Caen avec Gilles Serralini. Eh bien, le Roundup, le glyphosate est simplement testé pendant 2 ans sur des rats, la molécule dite active. Le Roundup, dans sa formulation globale, ne l'est pas. Or, on a mis en évidence, il y a des publications scientifiques qui montrent que les adjuvants du glyphosate pour faire le Roundup sont plus toxiques que le glyphosate lui-même. Et on a eu la confirmation écrite de M. Marc Montureux, directeur de l'ANSES, comme quoi le glyphosate avait bien été testé 2 ans sur des rats, mais le Roundup dans sa formulation globale n'a été testé que quelques jours sur des lapins ou sur des souris, simplement pour des problèmes oculaires ou pour des problèmes cutanés. Donc je veux dire que on met la population mondiale avec ça, et c'est le cas pour tous les pesticides au monde. Donc on met manifestement, et en sachant, la population mondiale en péril avec cela. Mais par ailleurs, eh bien, il y a les lobbies de l'agrochimie, etc., qui sont par derrière. Voilà un petit peu comment se passe effectivement la problématique de la protection de la population mondiale.
Merci.
Je voulais juste dire aussi que le système des agences me paraît complètement dépassé dans leur fonctionnement. Nous avons toujours des alertes qui partent au niveau central. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure de Tchernobyl et de la thyroïde, certaines pharmacies ont vu leur prescription de levothyrox et de dimercazole multipliée par 10 depuis qu'il y a eu Tchernobyl. Il n'y a eu aucune étude qui a été faite, on n'a fait aucune proposition de travail par territoire sur ces augmentations de produits destinés à la thyroïde. Je ne comprends pas que c'est quelque chose qui paraît aberrant. Toujours parce que l'analyse par du haut n'est jamais du terrain.
Merci. Madame Berthelin, je crois que vous vouliez prendre la parole.
Je vais poursuivre un peu le discours de M. Spirou, sur le côté européen et international. Et c'est intéressant parce que moi, peut-être avec mon histoire, je ne crois plus tellement à la politique française en ce qui concerne l'environnement et la santé, mais je crois plutôt à celle de l'Europe et de l'international. Nous avons un projet avec des magistrats italiens à Venise, de tribunal pénal européen de l'environnement et de la santé. Et cet élargissement, en fait, de cette conscience de la dangerosité de tous ces éléments et du fait que les générations futures seront bien sacrifiées, c'est au niveau international et c'est au niveau européen d'abord qu'il faudrait se grouper, parce que c'est très bien. Donc, non seulement les médecins sont isolés chacun, mais s'ils sont isolés aussi au niveau national, eh bien, qu'ils passent à l'Europe et qu'ils passent à l'international. Je crois que c'est là qu'il faut agir, puisque la conscience planétaire du danger, elle est internationale. Donc, et c'est là qu'on peut agir, et je ne suis pas aussi pessimiste que le docteur Spirou. Je crois qu'au niveau international, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et c'est ce qu'il faut faire. Que ce soit les médecins, on va faire des congrès environnement et santé en Italie, en Angleterre. Je crois que c'est cette conscience-là, européenne et internationale, qui fera bouger les choses.
Merci pour votre
témoignage. Alors, moi, je suis médecin épidémiologiste en santé environnementale depuis 1997. Donc, je voulais rassurer M. Roux qu'il n'est pas seul, des fois, à se sentir isolé et pas entendu. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans sur la pollution de l'air et ses effets sur la santé, notamment sur les particules fines et la pollution au diesel. Et je dois dire, je confirme ce que vient de dire Madame Bertolin-Geffroy. C'est vrai que nous n'avons pas été beaucoup entendus au niveau national au début de nos travaux. Nous avons même été beaucoup critiqués par la communauté scientifique. Et nous, à partir du moment où nous avons commencé à travailler dans des programmes européens, nos études ont été lues, entendues et comprises, puisque cette année a été déclarée année de l'air par l'Europe et que les particules diesel ont enfin été reconnues comme cancérogènes pour l'homme. Donc je le dis, c'est long, c'est passionnant, et moi je suis aussi optimiste, je pense qu'à l'avenir nous allons encore faire plein de progrès.
Merci. Et toujours continuer de bien soigner. Qui d'autre veut prendre la parole? Sinon, oui.
Michel Sierra, généraliste à Istres. Juste un bémol quand même concernant l'Europe. Que pensez-vous des mesures que est obligée d'appliquer la France concernant les cartouches de cigarettes qui transiteront par nos frontières, puisqu'on doit se conformer à la législation européenne et que désormais chaque personne pourra transporter 50 cartouches de cigarettes. Vous voyez comme quoi l'Europe, c'est pas mal, mais quand j'entends ça, moi, ça me fait bondir. Avant, c'était une cartouche ou deux, je ne sais plus. Là, maintenant, c'est 50. Donc, je ne sais pas. Je ne vois pas trop le progrès à ce niveau-là. L'Europe a des bonnes choses, peut-être, mais parfois de très mauvaises. C'est du lobbying, parfaitement, oui.
Très bien. Enfin, on peut difficilement juger l'Europe uniquement à travers ce point, certes dommageable, mais néanmoins. Est-ce qu'il y a d'autres?
Oui, ou même. Voilà. Oui, bonjour. Gilles Berderès, je suis ingénieur à la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Et je suis chef du projet d'agglomération du Grand Avignon. Nous travaillons depuis longtemps sur la prévention en matière de risque. Donc, on a créé des bases de données informatiques, notamment sur les risques majeurs, où on identifie l'ensemble des risques, des aléas et des enjeux. Hein, et on superpose évidemment ces cartographies pour voir où c'est qu'on doit travailler en priorité, à titre préventif. Dans la continuité de ce travail, dans le cadre du plan régional santé et environnement, on va étendre l'ensemble ces études préventives à l'ensemble des risques sanitaires et environnementaux. On travaille avec l'ARS et l'ADREAL, dans le cadre du PRS ou PACA, pour avoir à terme une cartographie précise de ce qui se passe sur le bassin de vie d'Avignon. Évidemment, on associera l'ensemble des médecins, il y en a une dans la salle qui s'est présentée, Madame Offray, l'ensemble des médecins pour voir comment on utilise ces informations vis-à-vis des habitants, des salariés et des usagers. C'est pour l'information, donc c'est en cours. Et on a créé un site internet, c'est une association qui a été créée pour ça, qui sert justement à faire un recensement de tous ces risques sanitaires environnementaux.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Non? Oui. Si, là, pardon. Excusez-moi.
Bonjour, Muriel Henri de Semel, je suis contente d'intervenir après M. Bélez, puisque je voulais, dans le prolongement, vous informer donc, sur la démarche du plan régional santé-environnement qui a labellisé ce congrès. Donc, ce congrès fait partie des 200 projets qui ont été labellisés par ce plan. Je suis vraiment ravie de constater l'intérêt des médecins pour cette question qui est la santé-environnement, puisque vous disiez effectivement que vous étiez insuffisamment entendu. Nous, vraiment, en matière de santé environnement, pour ma part, je suis ingénieur, nous avons besoin de travailler en tandem avec des médecins, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. La présence de certains médecins qui nous suivent, donc depuis le début du plan régional santé environnement, je pense à Fanny Frey, je pense au professeur Messinger, je pense au docteur Carinco, enfin, il y en a d'autres. La CF également qui est présente pour les débats hein, qui se tiennent au sein du PRSE. J'espère en tout cas qu'aujourd'hui ce sera un tremplin pour que les médecins s'intéressent de façon très concrète à ce qui se fait dans la région et soient force de propositions. Nous savons que vous êtes médecin de terrain, je crois qu'aujourd'hui vous l'avez bien rappelé, vous êtes observateur, vous nous alertez sur des problématiques. Hein, quand on se déplace dans les territoires, on a certains médecins qui viennent nous voir et qui nous signalent des situations préoccupantes. Je crois qu'il faut continuer à le faire, puisqu'on voit que dans nos institutions, la santé environnement participe de façon importante de cette prévention, mais ça reste relativement peu visible dans la mesure où ces données santé sont insuffisamment valorisées. Et on se heurte toujours à cette question de la mise en visibilité de l'impact de l'environnement sur la santé. Je crois qu'en tant que médecin, vous êtes vraiment les personnes qui peuvent défendre ce point de vue et être présents dans ces instances pour en être les témoins. Donc, si vous voulez participer et être force de proposition pour que des actions se tiennent avec vous, nous avons déjà eu des actions d'information sur la thématique cancer et environnement que nous souhaiterions développer. Et là, nous serons à votre écoute si vous avez des propositions concernant ce sujet. Mais rejoignez le dispositif. La prochaine réunion du plan régional santé et environnement aura lieu ce mardi, mardi 10 décembre, en préfecture de région. Si certains sont intéressés, vous serez les bienvenus.